C'était Monde Nacht de Robert Schumann qui était chanté par Margaret Price. Cette magnifique musique, d'ailleurs, vous la retrouverez chaque fois que vous retrouverez aussi une série d'émissions qui sont dédiées aux femmes et la création. C'est-à-dire, on essaiera donc de vous présenter par des interviews ou par simplement des descriptions ou par des lectures de romans, le travail, la création de femmes. Ce soir, c'est une interview qui a été faite en Belgique par Delphine Sering à une femme écrivain qui s'appelle Françoise Collin. Je vous présente un petit peu Françoise Collin. Donc, elle vit à Bruxelles. Elle a publié deux romans, Le jour fabuleux et Rose qui peut, dans les éditions du Seuil. Un essai, Maurice Blanchot ou la question de l'écriture, édition Gallimard. Une fiction, 331 VW 20, Lection du président, dans les éditions Transéditions. Et des poèmes et beaucoup de textes, entre autres dans des revues comme Écrire, Luna Park, Art Express, Exit, Canal. Elle est critique, elle a collaboré à divers journaux et revues. Et peut-être une chose très importante pour nous, parce qu'on a tous suivi les Cahiers du Griffe, elle a fondé donc les Cahiers du Griffe, elle est toujours dans le collectif. Alors ce soir, vous écouterez une interview donc de Françoise Collin et aussi, par la même occasion, la lecture de quelques textes qui ont été extraits de ses livres.
Je commencerai par citer ce que tu as écrit à propos de l'essai consacré à Maurice Blanchot et la question de l'écriture. Quelque part dans ce livre, tu dis « On ne devient jamais écrivain, l'écriture ne résulte jamais d'une décision, on ne se propose pas de devenir écrivain » et tu insistes bien en disant « On n'est même jamais écrivain ». Bon, bien sûr, tu as fait des études de philosophie, mais enfin, il y a aussi là plusieurs romans. Tu n'as donc pas décidé de devenir écrivain, je suppose, après ce que tu as écrit, mais tu écris. Alors comment te définis-tu ?
Oui, je crois que c'est important. En effet, jamais ça n'a fait partie d'un projet. Ça n'a jamais été pour moi, et je crois que ce n'est pas pour aucun écrivain une carrière, quelque chose vers quoi on va, mais quelque chose qui s'impose à vous. On est au fond tributaire de l'écriture. Et si je pense à ma propre expérience, de fait, il me semble que j'ai toujours écrit, même quand j'étais enfant, j'avais un très très grand plaisir à écrire, et je dirais même écrire au sens physique du terme, c'est-à-dire simplement recopier des textes, rien que le fait que ces phrases passaient dans ma main, que je les appropriais en quelque sorte, eh bien c'était pour moi un très très grand bonheur. Et je me souviens d'avoir écrit des petits poèmes et un tas de choses, même quand j'étais à l'école, qu'on se refilait sous les tables. De sorte que je ne sais pas quand j'ai commencé à écrire, et certainement quand j'écrivais, ce n'était pas du tout pour devenir écrivain, je ne songeais même pas du tout à une publication. Je lisais beaucoup, ça m'intéressait, mais je n'appartenais pas à ce que je considérais comme un univers autre que le mien. Moi, j'écrivais simplement. Et je ne pense pas que ça ait tellement changé. Je veux dire que même aujourd'hui, j'éprouve toujours beaucoup de peine, alors que je vois d'autres se définir comme écrivain, ça me gêne toujours beaucoup de dire « je suis écrivain ». Et pourtant, l'écriture est pour moi fondamentale. C'est vraiment, dans ce que je fais, ce qui va le plus loin, ce qui m'importe le plus, me semble-t-il.
Tu ne t'inquiètes pas que ça continue le lendemain matin ou pas ?
Je crois que j'ai toujours écrit un peu en vivant. C'est-à-dire que du fait que l'écriture n'était pas pour moi un projet, que je ne m'y investissais pas autrement que dans le moment même de l'écriture. Même quand j'écris, ça ne prend pas figure de projet de livre. Enfin, je veux dire que c'est ça, finalement, je crois, qui est important, c'est que pour moi, l'écriture n'a pas rapport d'emblée au livre. Alors, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de ça ces dernières années, de la résistance au livre. Je dirais que presque pour moi, il n'y a pas de nécessité de résistance. Enfin, c'est assez spontanément que l'écriture se réalise, s'effectue en moi, sans que nécessairement elle fasse partie d'une totalité possible qui serait à mon horizon. Et pourtant, il vient un moment, en effet, où je dirais, je la structure davantage, je l'organise, où elle prend forme. Et c'est toujours le moment pour moi peut-être le plus douloureux, le plus pénible. Autant écrire est pour moi une sorte de bonheur, et je dirais même de joie. Autant, au fond, organiser cette écriture en figure décisive de livre et m'apparaît comme un travail.
Les dates de publication de tes romans sont très espacées. Début des années 60, tu as 30 ans à ce moment-là à peu près, deux romans, Le jour fabuleux, Rose qui peut, et puis Le vide. Le vide jusqu'au début des années 70. Comment expliques-tu ce creux dans ton temps d'écriture ?
Ah, écoute, je crois que c'est très difficile d'expliquer, puis il faudrait refaire toute une histoire personnelle qui est tout de même difficile. Je ne pense pas que j'ai cessé d'écrire, j'ai surtout cessé de, comment dire, je dirais presque de croire en mon écriture et de l'organiser et de la mettre dans cette forme un peu décisive ou de la pousser jusqu'au point où elle est cette forme qui autorise l'édition. Il faut bien dire que quand j'ai publié mes premiers écrits, d'abord c'était des poèmes, des textes qu'un ami avait d'ailleurs envoyés à Jean Cayrol, qui dirigeait à ce moment-là la collection Écrire, qui était ouverte à pas mal de débutants. Après ça, j'ai commencé à, disons, écrire quelque chose qu'on pourrait appeler un roman, qui est Le jour fabuleux. Puis très vite après, Rose qui peut. Et je dois dire que, évidemment, ces livres-là, à cette époque, avaient quelque chose de peu accordé avec ce que je puis appeler la demande de l'édition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'une liberté beaucoup plus grande est laissée à l'écrivain. Mais on sortait encore à peine du roman traditionnel. C'était les premiers développements du nouveau roman. Et même le nouveau roman, au fond, n'a pu s'imposer d'une certaine manière qu'en faisant école, c'est-à-dire en ayant une espèce de systématique, de cohésion. Tu disais tout à l'heure qu'il était écrit roman sur mes premiers livres. De fait, il est écrit roman, mais je dirais que c'est un peu accidentel. C'est-à-dire que c'est le lieu éditionnel lui-même, puisque Jean Cayrol était tout de même lié aux éditions du Seuil qui ont publié mes premiers livres, qui, au fond, me sollicitait d'aller dans le sens d'un livre organisé, d'un livre structuré. Sinon, je crois que j'aurais continué à écrire toujours des textes selon mon besoin et des textes qui ne s'organisaient pas nécessairement en une histoire.
Sur des feuilles dans le tiroir ?
Non, pas dans le tiroir. Je ne peux pas dire que je n'aime pas ou je ne tienne pas à être lu. Ce serait faux. Mais il est évident que pour moi, le souci de communication dans le cadre d'une culture déterminée ou d'un lieu éditorial ou commercialisable, eh bien, je l'encaisse toujours assez difficilement. Enfin, je veux dire qu'il n'est pas prioritaire dans mes préoccupations. Il m'est très difficile d'en tenir compte quand j'écris. Il est évident que ces premiers écrits qui sont organisés en roman, eh bien, ils l'ont été un peu, je dirais presque à la demande. Enfin, aussi surprenant que soit de dire ça, mais au fond, Cayrol me disait à ce moment-là, faites un roman. Faites un roman, sinon vous ne serez pas publié ou sinon on ne vous lira jamais. Alors je me disais, je peux faire un roman, mais je ne veux pas faire autre chose que ce que j'écris. Et au fond, j'ai fait Ce jour fabuleux, qui est, je dirais déjà, un peu dans, dans le système que j'ai adopté par la suite, un collage de textes qui, bien sûr, ont une thématique commune et qui sont reliés par, tout de même par un récit ou par une ligne directrice. Alors que par la suite, dans Rose qui peut, qui vient peu de temps après, j'ose plus, d'une certaine manière forte du fait que mon premier récit dit roman avait été accepté, je me permets d'écrire plus librement et de structurer mon texte sans tellement tenir compte d'une ligne directrice ou sans élaborer une ligne directrice. Évidemment, ça a tout de même fait assez peur. Je me souviens encore qu'on me disait tout de même, il faut penser au lecteur, il faut donner la main au lecteur, comme on disait, et donner la main au lecteur, c'était faire malgré tout une histoire, un récit, au sein duquel je pouvais être libre, mais enfin pas tout à fait. Alors j'ai tout de même perçu le lieu éditorial comme une contrainte, en même temps comme un merveilleux lieu d'expression et de libération, mais tout de même comme une contrainte. Et je pense que ça m'a très fortement abîmée ou détruite dans mon travail d'écriture. De plus, pour l'époque, je dirais qu'en Belgique, j'ai été très bien reçue par certains, mais assez mal reçue quand même par, les écrivains, les hommes de lettres qui étaient en place ou qui avaient de l'importance à cette époque, qui pouvaient me donner le feu vert. Je n'ai pas reçu un accueil très chaleureux de la part des instances officielles belges. Et le fait tout de même de rencontrer énormément de difficultés, de la part même de ceux dont on attendrait une certaine reconnaissance ou une certaine confiance, a été pour moi très dur. Je dis ceci parce que ça s'ajoute au fait, effectivement, que des problèmes personnels sont venus se greffer sur ces problèmes d'écriture et qu'effectivement, j'avais à cette époque un horaire d'enseignement très lourd, j'avais deux jeunes enfants et qu'un peu à la fois, peut-être, tout cela s'additionnant, j'ai été noyée. Je crois que c'est important de le dire en tant que femme, de dire combien ce qui était pour moi vraiment très important, essentiel, l'écriture, s'est trouvé, mise en retrait par rapport à d'autres impératifs. Mais c'est pour des motifs donc assez divers. Je ne trouvais plus non plus cette espèce de soutien ou de force qui m'aurait été plus que jamais nécessaire à ce moment-là. Mais une femme qui n'existe pas, est-ce que ça existe ? Ajouta-t-elle un peu plus tard. Je ne sais pas. On agite les mains sur des matériaux de fortune et ça finit par ressembler à quelque chose. Personne ne se serait douté en voyant cette femme là, si calme, avec un menton et des oreilles et tout le reste autour, qu'elle ne tenait ensemble que par miracle, et pour fort peu de temps. Elle est bâtie à chaud et à sable, affirmait-il. Elle avait des pieds et des doigts, et avec un bâton de rouge, elle s'était fait un trait qui ressemblait à une bouche. Mais plus j'y pense, plus je me demande comment elle avait pu arriver à ce résultat. Ah, je m'admire moi-même, croyez-moi. Je ne suis pas peu fière de mon œuvre. Un homme qui n'existe pas, est-ce que ça existe ? Insistait l'enfant. Qu'en sais-je ? J'ai dû mettre beaucoup de paroles dans mon eau pour la boire, c'est vrai, mais je l'ai bu. Un homme qui n'existe pas, est-ce que ça existe ? Je ne sais pas. Je pensais que oui. Je fais du fromage avec le lait tourné, j'embrasse mes amis, j'achète des souliers pour toute la famille. Comptez sur vos doigts, ça fait pas mal d'années, pas mal de petites choses à mon actif. Un moulin à parole, est-ce que ça existe ? Interrompit enfin l'enfant. Bien sûr que ça existe, puisque c'est moi. Je moue des paroles de grand matin, j'en fais de la farine que je passe au tamis, j'en fais ton pain. Un moulin à paroles, ça tourne dans le vent, ou au bas d'un torrent, ça tourne vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Vous voyez comme on est gai en Belgique. Tous les gens sont ainsi dans mon pays, toujours contents, la chanson à la bouche. C'est un bien beau pays que mon pays. Voilà qui existe. On dit c'est petit, petit mais gentil. On dit pas malin, mais plus qu'on ne le croit. Chacun s'y entend à mener sa barque. On dit un peu gras, parce qu'il fait envie. Voilà mon pays, des hommes, des femmes, des gens bien portants et toujours bien mis.
Comment expliques-tu ce retour à l'écriture ?
Ce retour à l'écriture qui est aussi un retour à la publication, je crois que je suis revenue à l'écriture dans ce travail, par le détour de ce travail sur Maurice Blanchot d'une part, c'est-à-dire que j'étais la remise en contact très étroit, non seulement avec un penseur, mais avec un écrivain. Et tout à la fois, je retrouvais le travail, le mouvement de l'écriture comme tel, et une réflexion sur l'écriture qui, par certains aspects en tout cas, rejoignait très fort ou éclairait très fort le rapport que j'avais moi-même ou que j'entretenais moi-même avec l'écriture. Et ça a été un redémarrage. Je crois que c'est en suivant les traces de Blanchot, en travaillant dans son texte, que je me suis mise à refaire du texte. Et même ce livre qui est un livre, un essai philosophique, un essai d'analyse littéraire, même ce texte-là est déjà une manière d'écrire pour moi. Mais je pense que il y a eu un deuxième moment qui coïncide avec un séjour que j'ai fait aux États-Unis. Ça paraît un petit peu dérisoire de dire qu'un voyage à New York puisse avoir un tel impact. S'il n'a pas été déterminant, il a au moins constitué pour moi une charnière dans mon itinéraire, aussi bien dans mon expérience vécue que dans la redécouverte du texte et le retour à une envie d'écrire. Je crois pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était une sorte de rupture. C'était une rupture complète avec le monde européen. C'était un séjour dans une ville d'une force extraordinaire dans laquelle pendant des jours et des jours, j'ai marché presque en silence et qui a produit sur moi un effet de choc véritablement. C'était au moment des élections présidentielles de 1972. Nixon a été réélu d'ailleurs. Et de plus, j'ai vécu pendant des semaines dans une langue, dans un environnement de langue qui n'était pas la mienne. Et c'est assez curieux, mais à ce moment-là, la langue redevenait pour moi d'une importance considérable. Je me remettais à son écoute dans la mesure même où je la comprenais mal. Et au fond, les mots, tous les mots, même les mots des affiches publicitaires, les mots des indications de métro, etc., prenaient pour moi une valeur bouleversante, par le fait qu'ils s'imposaient très violemment, par le fait qu'ils étaient dans une langue étrangère et par le fait que j'étais affrontée à eux, j'étais affrontée à un langage dans une langue qui n'était pas la mienne. Et c'est ainsi que par ce biais, je crois, je me suis remise moi-même à écrire dans ce rapport avec l'anglais qui m'était juste assez perceptible et juste assez peu que pour opérer sur moi un effet dynamisant et créer en moi un rapport, je dirais presque, de lutte.
Je voudrais encore te citer à travers ton essai sur Maurice Blanchot. Tu écris là, « Un livre n'est jamais la reproduction, ni l'expression d'une vie ou d'un cœur. Il en révèle plutôt le vide. Loin d'être la mise en mots, il est le défaut de la vie. » J'aimerais que tu précises ces propos.
Je pense qu'effectivement, et ça ce serait tout à fait dans la ligne de la pensée de l'écriture qui est celle de Blanchot, je crois qu'effectivement, on peut écrire à partir de ce qui manque à la vie, enfin je veux dire de la vie qui manque. Et même si le livre qui en résulte est un livre, puisque tu as l'air de le suggérer, un livre vivant, cette vie du livre n'est sans doute pas l'expression de la vie effectivement vécue, mais est peut-être comme le poids dont elle a besoin pour exister. Le livre vient peut-être, je ne dirais pas combler, mais vient peut-être, faire être ce qui dans la vie n'est pas. Quelles que soient les choses qu'on raconte, même si on raconte des choses qui peuvent avoir trait avec une expérience vécue.
Oui, parce que tes descriptions des terrils, on retrouve bien ton originoire dans cette description, par exemple.
Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans mes textes qui sont liés à ma vie, je crois. Mais peut-être qu'ils ne deviennent importants qu'à partir du moment où précisément c'est l'écriture qui les fait naître et apparaître. Enfin, je veux dire que dans le vécu immédiat, tout ça passe et traverse et ne fait pas poids. Et que c'est l'écriture qui les fait exister, qui les fait accéder à l'existence et qui leur donne cette sorte de, je dirais, d'éclat ou de force qu'ils n'avaient pas dans le pur vécu. Et je crois que c'est très curieux, mais que beaucoup de choses, enfin, lorsqu'on écrit, des choses de vie sont écrivables. Enfin, je veux dire, sont prises au piège des mots et d'autres pas du tout. D'autres échappent totalement à la possibilité de la phrase ou du mot. Et c'est la phrase qui commande, en quelque sorte. C'est l'écriture qui commande et qui sélectionne, qui fait un tri dans tout ce qui se précipite à sa rencontre enfin, au moment où on se met à écrire. Parce que beaucoup d'autres choses pourraient être dites qui ne sont jamais reçues par l'écriture. Parce que l'écriture ne peut pas les accueillir ou qu'elle ne les appelle pas. C'est assez curieux, ce phénomène-là. Et d'autre part, on n'écrit pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas n'importe quoi et on n'écrit pas non plus n'importe comment. Je veux dire que ce que j'aurais voulu écrire n'est pas ou la manière dont j'aurais voulu écrire n'est probablement pas celle dont j'écris. L'image d'écrivain que je pourrais me faire de moi-même à certains moments n'est certainement pas, ou n'est sans doute pas, en accord avec ce que je peux être comme écrivain, avec l'écriture qui finalement sort de moi. Et je pense qu'il faut dire que j'écris, et je crois que c'est peut-être le cas pour les autres aussi, j'écris non pas ce que je veux, mais ce que je peux. Ça, c'est très net. C'est très important dans la relation à l'écriture, c'est qu'on est vraiment commandé par elle et qu'on doit s'y soumettre.
Mais justement, tu te défendais de rentrer dans la structure romanesque traditionnelle. Et alors là, je voudrais te citer toi.
Oui.
Dans une notice quelque part, tu dis « La narration n'est pas pour moi celle d'un roman. J'écris des romans, c'est-à-dire des histoires, qui ne forment pas une histoire, mais un ensemble. L'unité de mes textes n'est pas de l'ordre du tout, mais de la structure. J'écris pour soutenir l'attention, la mienne tout au moins. Oui. » Alors je me pose une question, est-ce que, à la limite, ça t'est indifférent qu'on te lise ou pas ?
Ah, mais je pense que ça, cette deuxième question n'est pas en rapport avec ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire que le fait que je raconte des histoires et non pas une histoire ne me paraît pas du tout un obstacle à la lecture.
C'est par rapport à la lecture traditionnelle.
C'est vrai, mais je pense que si je veux être entendue de toute manière, je veux que ce soit moi qui soit entendue et non pas quelque chose qui a déjà été entendu quelque part dans une structure qui est déjà posée quelque part. Donc d'une certaine manière, comment dire, être réticente ou résister à la structure traditionnelle du roman, ce n'est pas du tout refuser la communication. Je crois même qu'il y a des formes trop usées ou trop fixes qui finalement font en sorte que quand on lit, on ne lit pas. D'une certaine manière, l'écriture, c'est ça. C'est quelque chose qui, enfin ce que j'appelle la vraie écriture, entre guillemets, c'est quelque chose qui, sans qu'on le veuille d'ailleurs, heurte suffisamment, dérange suffisamment pour obliger à lire. Naturellement, deux réactions sont possibles. On peut ne pas lire du tout, mais si on résiste à ce premier heurt, à cette première difficulté ou à cette première effort, eh bien, je crois qu'alors on lit vraiment, tandis qu'on ne lit pas ce qui va de soi. Et alors, tu me disais, oui, c'est ça, raconter des histoires, oui. Dire que je ne raconte pas une histoire, c'est-à-dire que je ne m'enferme pas dans la forme du roman, c'est une chose, mais effectivement, je crois que je suis cependant, si je puis dire, conteuse. C'est-à-dire que même quand j'écrivais ou quand j'écris des textes, disons, qu'on pourrait appeler des poèmes, toujours je me mets à raconter des histoires. Et c'est, je crois, peut-être, je ne sais pas si on peut le dire, c'est peut-être féminin, je n'en sais rien, je raconterais des histoires plutôt que je ne construis l'histoire ou une histoire. Et ça m'a beaucoup frappée récemment, je crois que c'est peut-être d'ailleurs pas tellement rare, mais en lisant et en traduisant Gertrude Stein, Ida, je me rendais compte, et j'avais d'ailleurs été très touchée par ce livre parce que je le sentais très proche de moi, très proche de moi, je veux dire, il y avait quelque chose qui fonctionnait de la même manière, je me suis rendu compte que ce livre fonctionnait aussi par une série de récits, de petites histoires, de petites ou de grandes histoires, et quelquefois c'est presque rien, qui crée ce sentiment qu'il n'y a pas de ligne conductrice et qu'il n'y a pas de progression d'un texte vers un état ultime, mais qu'il y a simplement une structure temporelle tout à fait différente qui est une dispersion constante. Je veux dire, le fait que tout passage est une incidente et qu'il n'y a pas de ligne directrice décisive. Et ça, je crois que c'est très important. C'est une résistance, au fond, à l'unification. C'est une résistance à l'un. C'est une résistance à l'histoire avec un grand H qui se traduit également dans le roman. Et ce n'est pas neuf pour moi parce que je me souviens que dès le moment où j'ai commencé à écrire, c'est ça qui me gênait beaucoup et à quoi je résistais. C'était à cette espèce d'illusion du roman comme histoire allant vers son apothéose.
Je n'ai plus de souvenirs. C'est peut-être
chaque jour qui s'élève ne m'apporte aucun espoir. Je n'ai même pas de rêve. Quand lui l'étoile du soir, moi je m'ennuie, c'est dans ma vie une manie, je n'y peux rien. Le plaisir passe, il me dépasse, en moi sa trace. Je traîne comme une chaîne, ma lourde peine, c'est mon seul bien. C'est dans ma vie une manie. Moi, je m'ennuie. J'ai voulu griser mon cœur, et souvent sur mon passage, j'ai vu naître le malheur. Sur chaque nouvelle route, à l'amour j'ai dû mentir. Le soir, lorsque j'écoute la plainte du vent mourir. C'est bien, c'est dans ma vie.